Okay. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui à la BPI pour parler de Anne Bock, publiée aux éditions L'Apocalypse, bande dessinée dans laquelle, pour laquelle, avec laquelle vous avez reçu le prix Révélation ADAGP Quai des Bulles et le Fauve prix spécial du jury à Angoulême. Bravo.
Merci.
Alors, on va évidemment parler longuement de cette bande dessinée autobiographique. C'est vous que l'on voit sur la couverture, entouré de vos sœurs, vêtues d'un hanbok, un vêtement traditionnel coréen. Vous aviez 4 ans quand la photo dont est tiré ce dessin a été prise et vous veniez d'être adoptée par un couple de Limougeaux.
Oui.
Mais avant cela, Sophie, avant de parler de hanbok, dans les jeudis de la bande dessinée, on s'intéresse tout particulièrement au début. Alors, vous avez fait vos études aux Beaux-Arts d'Angoulême, aujourd'hui École européenne supérieure de l'image. Mais avant cela encore, quelle lectrice de bande dessinée est-ce que vous étiez plus jeune, enfant, adolescente? Et est-ce que vous faites partie de ces dessinateurs et dessinatrices qui ont toujours dessiné?
Oui.
Merci. Deuxième question.
En fait, on dessine tous enfants. Et c'est vrai qu'on dessinait, avec mes 4 sœurs, on dessinait. Je pense que pour mes parents, c'était une bonne manière de nous occuper aussi toutes les 5 ensemble. Et en tant que lectrice, j'ai commencé avec le journal de Mickey. Enfin, des livres pour enfants et puis après le journal de Mickey qu'une cousine nous avait donné un gros tas de ses journaux à elle, donc qui n'était pas de mon époque. Et que je trouvais géniaux parce qu'il n'y avait que de la BD. Enfin, c'était vraiment... peut-être que vous en avez lu aussi à l'époque. Et c'était... Il y avait Mandrake. Enfin, il y avait des histoires à suivre comme ça. Il y avait les Mickey. Il y avait Agar du Nord. Enfin, il y avait... Et moi, j'ai grandi là-dedans en relisant. Avec mes sœurs, on relisait toujours les mêmes. Donc, on avait le gros paquet. Et ensuite, mes parents avaient quelques BD. Du Reiser, Brett Eschet. Mais ce n'était pas les collectionneurs de BD. C'était pas, voilà. Et après, après Mickey, il y a eu À suivre. Voilà, en gros. Et je lisais vraiment tout jusqu'à arriver à l'école à Angoulême où là, j'étais... Mais je pense que c'est un peu l'effet des Beaux-Arts, en fait, qu'on devient plus critique. Je pense que là, je me suis... J'ai commencé à lire de la BD plus indépendante à ce moment-là.
Mais justement, vous disiez, je dessinais comme tout le monde dessine. La différence entre tout le monde et les dessinateurs et dessinatrices de bande dessinée, c'est que vous continuez à dessiner quand la plupart des personnes s'arrêtent. À quel moment est-ce que vous avez su que... vous avez réalisé que vous pouviez raconter des histoires par le dessin, parce que ce n'est pas la même chose d'aimer dessiner et d'aimer raconter des histoires, ou en tout cas de mesurer qu'avec le dessin on peut raconter des histoires.
Alors ça c'est moi, mais je pense que quand on commence à dessiner, les enfants, on raconte des histoires, on se raconte des histoires, et après peut-être ça devient autre chose à l'école quand on nous parle d'œuvres d'art. Mais pour moi, ça continue quand même à raconter. Donc, je n'ai pas conscience d'un moment précis où je me suis dit que le dessin servait à raconter une histoire. Ça s'est fait un peu naturellement. Ça, je ne sais pas si quelqu'un a conscience de ça, même ici.
Non, mais parfois, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu certaines ou certains dire, c'était de réaliser justement, peut-être avec la lecture de bandes dessinées, que c'était en fait un moyen justement de raconter davantage que ne le peut un seul dessin. Et qu'en tout cas, au-delà de l'envie, parce qu'il y a des personnes par qui l'envie de dessiner de la bande dessinée passe par l'envie du dessin en lui-même, par ce goût du dessin, et d'autres où ce qui prédomine, c'est vraiment... cette idée que ce dessin va permettre de raconter quelque chose, ou en tout cas qu'il y a une narration.
Dans mon cas, question complexe. Non, en fait, moi, dans mon cas, c'était le dessin, je pense, avant tout, et qui, à l'école, je dessinais dans les marges, et on dessinait avec les copains, enfin, on faisait des petites conneries, enfin, voilà. Et je pense que c'est plus par ce biais-là, par le côté communautaire un peu que que j'ai pu développer peut-être quelque chose de plus narratif. Hein. Mais tout ça, c'était pas très réfléchi. C'est plus à l'école, après, quand j'ai eu des cours, quand j'ai rencontré des gens qui avaient réfléchi sur la narration, la bande dessinée. Mais avant ça, c'était pas réfléchi.
Et justement, à l'école, qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris de plus précieux ? C'est justement ce regard critique et la découverte d'autres œuvres. C'est, vous disiez, ce côté communautaire, est-ce que c'est le collectif, ouais, ce que permet l'école, de rencontrer d'autres personnes qui ont une pratique similaire et qui permet de faire des choses ensemble ? Qu'est-ce que ça vous a apporté, les Beaux-Arts d'Angoulême ?
J'ai des rencontres. Des rencontres et... Il y a des profs qui m'ont vraiment apporté beaucoup, mais pas forcément des profs de bande dessinée. C'est plus une culture générale artistique et un peu critique aussi de la bande dessinée et de l'histoire de l'art. Mais sinon, je pense vraiment que c'est par les rencontres et quand on dessine ensemble avec les copains et qu'on fait des cadavres exquis ou qu'on fait des soirées, on dessine tous ou on se dessine entre nous. Je pense vraiment que ça... En tout cas, pour moi, ça s'est passé par ça. J'étais... Bien qu'il y ait cette partie où on travaille seul, mais étant étudiante, on est quand même beaucoup en groupe. Donc, c'est plus le côté groupe qui a fait quelque chose...
Et c'est étudiante que vous avez découvert Brigitte Fontaine.
Eh oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre amour pour Brigitte Fontaine ?
Ah ben là, il faut aller voir l'article de la BPI. Et je me suis creusée la tête, mais peut-être pas trop sur Brigitte Fontaine, parce que je trouve que c'est très dur, à part dire j'aime son personnage et tout, et sa créativité, et sa liberté, et tout ça. Mais comme beaucoup d'artistes et beaucoup d'œuvres, en tout cas, ça m'a plus marquée étant étudiante. Alors peut-être parce que j'étais plus curieuse ou plus vide ou je sais pas. Et peut-être aussi qu'il y avait un regard peut-être plus critique où on se cherche. Mais Brigitte Fontaine, ouais, je crois que j'ai tout dit dans l'article, mais je pense qu'on aime Brigitte Fontaine. Enfin, c'est parce qu'on aime les mots, on aime cette audace. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'elle est âgée. C'est pas si évident d'être âgée, mais d'être une femme qui continue à créer et qui en plus travaille avec d'autres artistes et de tous les âges. Enfin, vraiment, elle est toujours très surprenante.
J'aimerais qu'on reste encore un instant à l'école et on va parler dans quelques instants de Anne Bock. C'est pas si éloigné dans le temps que ça, le début de Anne Bock, l'origine de cette bande dessinée et l'école d'Angoulême. Mais vous évoquiez le journal de Mickey, vous disiez que vous aviez découvert aux Beaux-Arts d'Angoulême d'autres œuvres. Est-ce qu'il y a des artistes ou quelques bandes dessinées qui ont été particulièrement importantes, vous avez le sentiment, dans ce que vous allez créer par la suite et qui ont été, en tout cas, dans la façon de vous trouver en tant qu'autrice de bande dessinée, si tant est qu'on se trouve complètement un jour, c'est-à-dire qu'on évolue en permanence. Mais est-ce que vous avez le souvenir d'une découverte particulièrement marquante pour l'étudiante que vous étiez ?
En fait, je ne vais pas me prendre beaucoup de risques en parlant de Mouse, parce que en plus, il y a un documentaire là, qui est sorti il n'y a pas longtemps... Et Mouse, c'est vraiment une référence absolue, mais qui dépasse le monde de la bande dessinée. C'est ça qui est intéressant, mais à tout niveau, vraiment, par le sujet, et, par la manière de raconter, par la technique. En fait, c'est l'histoire de la bande dessinée aussi, enfin de ce livre-là qui est intéressant. Mais comme œuvre, il y avait donc Will Eisner que j'avais mis Big City, qui est gros, c'est un recueil de plein d'histoires qui sont pas présentées comme autobiographiques, mais qui le sont pour certaines. On sent qu'il a vraiment, il a pas inventé, il a pas recréé un monde, même si, pour par exemple, 55 avenue Dropsy, c'est une rue qui n'existe pas, je crois. Il y a une histoire comme ça, mais en fait, elle existe. Sinon, il y en a vraiment beaucoup.
Ça fait déjà deux.
Mais si, à Persépolis, mais ça, c'était après les études. Et sinon, justement, on en parlait il n'y a pas longtemps, il y a Déby Dreschler, pour rester dans l'autobiographie marquante comme ça, Déby Dreschler, c'est le titre, c'est je sais plus,
je l'ai pas,
mais c'est horrible parce qu'elle parle de l'inceste qu'elle a subi. Enfin voilà, c'est une autrice américaine, canadienne.
Nord-américaine.
Parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Daddy's Girl, ouais. Qui est vraiment, c'est chez l'association. Et qui est vraiment marquant aussi. Et c'est ce genre de livres, il faut vraiment les lire. Parce que ça. Voilà, il faut les lire.
Vous sortez diplômée des Beaux-Arts en 2021. Qu'est-ce qui se passe en 2001? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On évoquait le collectif, il y a donc le fanzina, il y a la participation à des œuvres collectives, il y a beaucoup de récits courts à ce moment-là. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers dessins publiés, de l'émulation, j'imagine, qu'il y avait à ce moment-là dans l'idée de création collective qui est née, j'imagine, aux Beaux-Arts, mais qui a continué au-delà?
Alors, les fanzines, j'avais commencé avant les Beaux-Arts. Donc, quand j'habitais à Limoges, j'avais trouvé un groupe qui s'appelait Warninka. Et on faisait beaucoup la fête, mais on dessinait. Et ça m'avait déjà donné une idée du collectif. Mais c'est vrai que par la suite, pendant mes études et après, donc les collectifs ont continué. Mais je ne sais plus ce que je...
C'est ce qui se passait en fait en 2001 et le souvenir des premiers dessins publiés et de comment est-ce que vous avez continué à raconter des histoires, d'abord des formes courtes.
Alors après les études, j'habitais toujours à Angoulême et j'avais un gros projet de fiction où je racontais une histoire de famille, enfin une histoire autour de la relation d'une mère avec sa fille, oui. Enfin, c'est plutôt l'histoire de la fille avec sa mère. C'était très compliqué. Donc, c'est assez drôle parce que sachant qu'après, en 2003, ma sœur a retrouvé toute notre famille biologique. Et c'était aussi... dans la fiction d'avant, il y avait ce côté un peu dramatique, on peut dire. Mais ce qui s'est passé avant et après les études, j'ai participé à des collectifs... J'avais pas vraiment publié sérieusement entre guillemets et j'étais un peu dans ce réseau post-étudiant de fanzines et petits collectifs comme ça, donc c'était pas encore professionnel comme on dit maintenant quand on a un contrat avec un éditeur donc je sais pas si ça répond à ta question.
Si, complètement. Et puis il y a donc ce récit, cette fiction sur laquelle vous travaillez, et il y a ce voyage qu'entreprend votre sœur, qui retrouve donc votre famille biologique en Corée, et qui vous propose de faire un voyage avec elle en 2004, et c'est le début de Hanbok. C'est à ce moment-là que naît ce projet.
Oui, alors pour être plus précise, parce que ma sœur, en fait, quand elle est revenue en Corée, elle aurait aimé qu'on y retourne toutes avec qu'on y retourne toutes les quatre ensemble. Et en fait, c'était compliqué parce qu'il faut pouvoir être disponible assez longtemps. Il faut pouvoir aussi le vouloir. Enfin, il faut le vouloir. Il faut avoir les moyens aussi. Et moi, j'étais la seule qui cochait toutes les cases. Et puis j'étais vraiment curieuse. Parce que il y a aussi que j'avais pas de souvenirs, enfin j'avais pas avant ça ne m'intéressait vraiment pas plus que ça la Corée, mon histoire, mais quand elle est revenue avec ses photos de nous et puis des photos de nos parents biologiques, c'est vrai que c'était complètement fou et puis c'était voilà, ça a vraiment... j'étais très curieuse, donc voilà.
Donc vous êtes partie avec elle, et je vous entendais dire sur France Culture récemment que cette histoire, vous vouliez la raconter en premier lieu pour votre famille. Comment est-ce que de ce voyage, du fait que vous travaillez sur une fiction, sur une relation entre une fille et sa mère, qu'il y a la découverte par votre sœur de votre famille biologique, ces photos, puis le voyage, ça a été une évidence qu'il fallait le raconter en bande dessinée et qu'il fallait le faire sans doute pour vous, parce que vous avez ressenti le besoin de le dessiner, mais aussi plus largement pour votre famille ?
Oui, c'était une manière de l'inscrire aussi. Et une manière de m'en souvenir et de remettre tout ça ensemble, parce que finalement il y avait des bouts de souvenirs par-ci par-là. Il y avait donc ce voyage qu'on venait de faire avec ma sœur, quelques photos de pas très bonne qualité, et c'était pour moi déjà de réunir tout ça et puis de inscrire ce voyage, et puis de le raconter de manière plus juste par la bande dessinée, parce que c'était mon truc, enfin c'était ma manière de m'exprimer, et c'était, oui, pour ma famille, parce que forcément ma famille est impliquée dedans, mes sœurs complètement, et puis mes parents aussi, parce que c'est vrai que c'était très bouleversant pour eux de nous savoir comme ça, de nous voir repartir là-bas. Pour mes parents adoptifs, c'était quand même c'est pas évident. Bien que pour nous, enfin pour moi en tout cas, c'était évident. Ça n'a jamais remis en question notre relation et le fait que ça soit pour moi mes parents, mes vrais parents. Mais oui, c'était vraiment pour la famille, et ils m'ont vraiment toujours encouragée. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de chance. Enfin, c'est vrai que je suis pas du tout représentative des Coréens adoptés, parce que chaque histoire est différente, bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de souffrance aussi. Et dans mon cas, et c'est peut-être pour ça que j'ai pu en parler, c'est parce que j'ai pas vraiment souffert directement comme ça, ou même j'ai pas de souvenirs douloureux comme mes sœurs aînées ont. Donc oui, c'était pour ma famille, oui, bien sûr, en premier. Voilà.
Vous avez commencé à écrire ce livre au retour de ce voyage en 2004-2005. Vous mêlez dans votre bande dessinée différentes formes de narration et différents styles de dessin. On va en parler. Mais très concrètement, par quoi est-ce que vous avez commencé, et comment est-ce que, j'imagine, petit à petit, votre récit a pris la forme qu'il a aujourd'hui ? Est-ce que ça a commencé par reproduire certaines des photos que votre sœur avait ramenées ? Est-ce que ça a été commencé par raconter ce voyage ? Est-ce que ça a commencé par la correspondance que vous entretenez avec une amie coréenne et qui est présente dans ce livre ? Comment est-ce que, finalement, petit à petit, et est-ce que c'était des éléments épars que vous avez ensuite réunis ? Voilà, comment est-ce que, si on rentre dans la construction même du livre, vous avez fonctionné ?
C'était un peu tout à la fois. À ce moment-là, donc, y a cette partie de correspondance des cartes postales dessinées que j'ai changé avec Jouyonne. Et ça, c'était donc en même temps, 2005-2006. Et le récit principal du voyage et les photos dessinées, c'était un peu tout en même temps. Alors, bon, c'est vieux, je me souviens plus trop. Mais je me souviens, quand j'avais fait la demande de résidence à la maison des auteurs, j'avais commencé les cartes postales dessinées. Et en fait, c'est pour ça que j'allais à la maison des auteurs pour faire des photocopies. Et donc, la directrice de la maison des auteurs, c'est elle qui m'a proposé de faire une demande. Et donc, j'avais en tête le récit, enfin le projet du récit. Et je savais, en fait, que si je le racontais, ce serait... j'avais le scénario, en fait. Mais par contre, les lettres, c'est venu... Enfin, l'idée d'intégrer les lettres au récit, c'est venu un peu après, quand j'étais en résidence. Et j'ai trouvé ça fantastique, parce que tout collait très bien. Enfin, vu qu'on parlait de nos origines coréennes avec cette amie, on parlait de notre parcours. Donc c'était vraiment dans le sujet. Et puis sinon, les photos, en fait, j'avais pas vraiment conscience que j'allais les mettre dans le projet. Mais en fait, ça collait aussi. Je pense que tout ça, ça répondait à un même besoin. Donc forcément, ça allait se retrouver relié ensemble. Et après, quand j'ai repris, parce que pendant longtemps, donc j'ai fait cette résidence en 2005 jusqu'à 2007. Après, je suis allée en Corée en 2008-2009 pour donc ce projet, résidence d'artiste à Bucheon, près de Séoul. Et en fait, petit à petit, je travaillais, j'avançais mes pages. Le scénario ne changeait pas puisque c'était ce voyage. Et c'est vrai que petit à petit, bon, après j'ai déménagé, je suis arrivée à Paris en 2009. Et j'avais pas le temps, je faisais un petit boulot, je faisais du babysitting, j'étais plus trop dedans, mais j'avais quand même ce projet toujours dans la tête, ça me tenait à cœur. Et je faisais des pages, j'en faisais moins, mais j'en faisais quand même régulièrement comme une balle qui rebondit et puis à la fin, ça ne bouge plus trop. Et puis après, c'est des rencontres, retrouver des amis à Paris qui étaient à Angoulême. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours gardé ce lien aussi avec Angoulême et la communauté d'Angoulême, parce que c'est le festival, c'est un point de repère, donc vraiment... Ouais, quand même centrale pour le monde de la bande dessinée. Et donc, c'était toujours là. Enfin, c'est toujours...
Mais justement, vous disiez, j'avais en tête le scénario, puisque c'était ce voyage. Sur place, on vous voit sur place dans la bande dessinée, on voit votre sœur filmée, on voit parfois des photos qui sont prises, on vous voit assez peu dessiner, mais vous dessinez un petit peu sur place. Est-ce que vous preniez aussi des notes ? Comment est-ce que finalement vous avez, raconté ce voyage ? Est-ce que c'était au contraire de le reconstituer a posteriori, en se disant que la mémoire ne conservera que ce qu'il est essentiel de conserver ? Ou est-ce que vous aviez des notes que vous preniez tous les jours pour bien avoir en tête exactement ce qui se passait pendant le voyage ? Voilà, comment est-ce que finalement vous avez reconstitué ce voyage en bande dessinée ?
Alors pour ce qui est des notes, c'est quelque chose que je fais, j'ai toujours fait de noter tous les jours ce que je fais ou les gens que je rencontre, je pense que c'est plus pour me rappeler, je le fais de toute façon, donc là pour ce voyage j'avais noté vraiment où on allait, après c'était difficile parce que c'est vrai quand on n'est pas chez soi et puis quand on bouge comme ça d'un endroit à un autre et puis dans ces conditions, c'était pas évident, mais c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Il y avait donc les vidéos de ma sœur et des photos que je prenais. Mais alors, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas les smartphones avec plein de mémoire pour prendre des photos et des vidéos tout le temps. Et c'est vrai que ça aurait peut-être changé la donne. Mais au fond, ce que je me disais au fur et à mesure que le temps passait, c'était que de toute façon, il y avait le plus important rester. Et puis même le fait que le temps passe, c'était une donnée qui était intéressante aussi pour le livre, parce que c'est tenir compte aussi de la manière dont je vois les choses maintenant. Et avec l'âge, c'est vrai qu'on se pose des questions. Enfin, on réfléchit différemment par rapport à ma mère biologique. Le fait que, en fait, j'ai bientôt l'âge qu'elle avait quand je l'ai rencontrée, donc en 2004. Et en fait, et puis sur des réflexions sur les enfants ou des choses comme ça, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Et je pense que ça a joué aussi dans l'écriture du livre, même si le scénario n'a pas bougé, puisque le voyage, là, il est fait. Il y avait une chose aussi sur le dessin. Parce qu'à la dernière rencontre, on avait parlé de ça. Et c'est vrai que Charles Berberian, il parlait du dessin, que c'est vrai que c'était une manière de se souvenir. Et en fait, moi, j'avais dit que je dessinais pas pendant le voyage. J'avais fait des croquis, mais c'est vrai que je disais que j'avais pas envie d'être trop en position d'observatrice. Parce que pour moi, quand je fais des croquis, je suis un peu hors des choses. Mais quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est vrai, il y a ça aussi. C'est vrai, quand on dessine, on se souvient plus précisément du moment et de ce qu'on a dessiné. Mais c'est juste que j'y ai repensé après. Je me disais, mais c'est vrai, il a raison, j'ai dit une bêtise. Mais en fait, les deux sont vrais. Enfin, ce voyage-là, c'est vrai que c'était quand même particulier. Donc, j'avais envie d'être là au cas où. Enfin, j'avais envie de participer. Et je savais que je m'en souviendrais. Donc, voilà.
Mais vous dites que finalement, le fait que du temps ait passé, ce soit quelque part intéressant pour l'histoire, parce que ça, forcément, vous n'êtes pas la même que vous étiez, que celle que vous étiez en 2004. Est-ce que ça veut dire que vous êtes revenu sur ce que vous aviez écrit en 2005, 2006, 2007, 2008, en vous disant « Ah, mais en fait, maintenant, j'ai davantage de recul et je ne l'aurais pas formulé de la même façon » ou vous avez préféré justement conserver la trace de qui vous étiez au moment de la réalisation de chaque page, finalement ?
Le scénario n'a pas bougé et les faits donc, n'ont pas changé pendant toutes ces années. Mais c'est l'approche. L'approche que j'en ai qui a changé, l'approche que j'en avais. Et il y a des éléments, en fait, je pense que c'est plus la composition des éléments qui a un peu changé. Et peut-être même, par exemple, les souvenirs de mes sœurs, je les avais, mais au départ, je ne me souviens pas. Alors, peut-être j'ai oublié, mais je ne me souviens pas que je voulais les mettre en scène à ce moment-là, avec la rencontre de la mère. Et je ne sais pas si c'est la maturité en général et la maturité artistique qui a joué. Mais ça a changé. Je trouve que les choses n'ont pas changé. Et je pense qu'il y a des choses qui étaient présentes, mais que je ne formulais pas, en fait, que je n'avais pas vraiment peut-être cerné. Ces souvenirs ou des réflexions qui étaient là, mais que je n'avais pas prévu de mettre dans la BD. Comme par exemple mon nom coréen, qui était un peu une blague, mais au tout départ, en fait, c'était pas prévu. Voilà, j'avais pas. Et en fait, c'était intéressant de le mettre. Peut-être aussi, entre-temps, j'ai pris des cours de coréen et je connais un peu plus la culture coréenne parce que c'est vrai que ça a beaucoup, ça s'est vraiment développé en France de manière spectaculaire. Enfin, en France et ailleurs, dans tous les pays. Et je pense que ça a joué aussi. Mais sinon, la trame de base n'a pas changé. Ça, c'est...
Et je reviens sur une autre chose qu'on a dite la dernière fois qu'on échangeait avec Charles Berberian, où vous écrivez à un moment dans la bande dessinée « J'aimerais retrouver le vertige que j'ai ressenti quand j'y suis allée en août 2004. » Et parce que Charles Berberian disait que le fait de dessiner, ça lui permettait d'être vraiment dans le moment qu'il dessinait, dans les lieux qu'il dessinait. Vous disiez, on ne retrouvera jamais ce vertige, justement. C'est impossible de retrouver l'émotion de la première fois.
Bah oui, voilà. je sais pas quoi rajouter. Non, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tous, dessin ou pas. Enfin, c'est vrai que... Mais peut-être que le fait que je dessine pas à ce moment-là, c'était pour essayer de garder quelque chose comme ça. Mais je crois que c'était pas très conscient. Mais c'est vrai que ce vertige-là, oui, c'était plus par rapport à cette première fois. Enfin, ouais, là-dessus. Mais désolée, je ne sais pas quoi dire de plus.
Non, mais c'était sur le fait que par le dessin, on cherche malgré tout à retrouver ça, sinon vous ne l'écririez pas. Mais c'est de se dire, je cherche à le retrouver, mais finalement, rien ne permet de revivre ce moment-là. Donc c'était juste le raconter, puisque vous le racontez dans le livre.
Oui, c'est vrai. On essaye, en tout cas, on essaye de raconter ce vertige-là. Enfin, moi, je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire avec la rencontre. Avec la mère biologique, d'essayer de remettre tous les éléments en place pour être au plus près de quelque chose qu'on aurait ressenti et quelque chose qui est pas simple, c'est pas juste de la tristesse ou quelque chose de, voilà, c'est Et c'est ça qui est intéressant aussi. Mais moi, ouais, je pense que c'est plus... Ouais, il faudrait réfléchir encore là-dessus.
La troisième fois, je reposerai le... Mais par rapport, on évoquait les photos, on évoquait les souvenirs. Pour reproduire ces photos, pour reconstituer à la fois ce voyage, mais malgré tout essayer de reconstituer aussi l'histoire de votre adoption. Il fallait décrypter ces photos. Vous évoquiez le fait que certaines étaient floues et je vous entendais dire dans une rencontre que c'était comme finalement un jeu entre soi-même et les images. Qu'il fallait, c'était aussi l'idée d'enquête, c'est-à-dire qu'il y a ces photos, certaines sont floues, et puis il y a des choses où il faut accepter qu'on ne saura jamais parce qu'on n'a ni photos, ni témoignages, ni souvenirs qui permettent de combler ce vide. Et donc là, il faut y mettre quelque chose, ou en tout cas, il faut raconter. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce double cheminement, même si les deux vont ensemble, d'enquête, d'interpréter aussi les photos, c'est-à-dire aller chercher des indices, puisqu'il faut savoir quand est-ce que les photos ont été prises, à quel moment de votre histoire est-ce qu'elles ont été prises. Ça veut dire voir si est-ce que c'était plutôt un moment où il faisait très chaud ou il faisait moins chaud, ça on peut le voir avec les habits, et comment est-ce qu'on fait finalement avec justement des éléments épars qui racontent une même histoire, mais qui restent des éléments épars. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez travaillé cette matière-là et comment est-ce que vous avez envisagé ce jeu entre les images et vous-même ?
Bah, en fait, même quand on n'a pas beaucoup d'images et pas beaucoup de mémoire... En fait, on se rend compte en grattant, en dessinant ou en tournant autour ou en collectant comme ça des bribes de souvenirs ou même des choses qui sont très floues. Finalement, c'est toujours une matière de base et qui c'est pas qu'on brode dessus, mais on a cette possibilité de détailler. Enfin, il y a 10 000 manières de faire. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, oui, c'est un jeu avec soi-même, mais avec sa technique. Je pense, en fait, ça nous apprend, mais même quand on ne fait pas de BD, c'est quelque chose qu'on apprend, à faire avec ce qu'il n'y a pas. Et donc, on fait avec ce qu'il y a, et ce qu'il y a, il y a beaucoup déjà. C'est un travail, je pense, peut-être d'acceptation, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, on sait bien que on ne saura jamais tout. Et peut-être on essaye de le recomposer. Je trouve que c'est un mot qui revient souvent parce que c'est plus ça, recomposer des éléments, des indices. D'essayer d'en faire quelque chose, d'un récit qui est entendable et qui est lisible et qui reste ma version, ma composition finalement. Mais ouais, c'est plus de cet ordre-là, quelque chose d'orchestré ou des petites notes ou des choses qui peuvent paraître très floues. C'est y a pas forcément des dates et ça, mais tout ça on peut reconstituer. Mais ouais, reconstituer ou recomposer, c'est un peu c'est cet ordre-là. Ouais.
Et vous racontez aussi justement l'absence de souvenirs, et vous le disiez un petit peu tout à l'heure, vous voyez des lieux que vous rapprochez à des photos et vous l'écrivez, c'est devant cette maison que cette photo a été prise. Une fois de plus, je n'en ai aucun souvenir. C'est-à-dire que vous faites aussi justement avec cette absence de souvenirs et cette envie qu'on sent derrière qu'il y a un déclic et que d'un seul coup une photo déclenche peut-être cette mémoire-là, mais de dire non en fait. Je ne me souviens pas. Vous faites aussi avec ça ?
Oui, mais en fait, c'est... Parce que même ce passage-là, en fait, c'est, je ne suis même pas sûre que ça soit vraiment devant cette maison. C'est ça qui est terrible. Mais en fait, ce n'est pas grave parce qu'il y a des indices qui sont vraiment vrais. Enfin, je ne pense pas me tromper. Et, c'est pas grave parce que tout ça va, je pense, dans le sens de cette acceptation et puis cette recomposition. Mais ouais, je sais Ouais.
Et cette recomposition, elle se fait à l'aide d'un seul et unique outil, qui est la plume. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cet outil, de ce qu'il vous permet, peut-être aussi de votre rapport à cette technique? Est-ce que c'est justement aux Beaux-Arts que vous avez commencé à manier la plume et que vous en avez fait votre outil de prédilection? Est-ce que c'était pour ce récit en particulier? Quel vous semblait l'outil le plus adapté? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de travailler à la plume et à l'encre?
La plume, je crois que j'ai commencé... aux Beaux-Arts, je suis même pas sûre. Si, avant c'était plus les stylos et tout. Mais c'est quelque chose qui me paraît assez évident parce que c'est très fin. Moi j'utilise une plume, mais je l'ai d'ailleurs, la plume Atome de base, pas chère, qu'on trouve partout, et puis dans de l'encre de Chine. Et c'est souple. En fait, ça dépend de chacun, mais ça permet des variations de traits, c'est fin, alors on peut écrire aussi. Et moi, je trouvais ça parfait parce que c'est, pour la bande dessinée, c'est l'idéal, enfin pour moi. Mais parce que c'est, pour moi, la bande dessinée, et le dessin même de bande dessinée, c'est écrit. Enfin, je trouve que quand on lit une bande dessinée, on lit le dessin, on passe de l'un à l'autre, et c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Bien qu'il y ait plein de personnes qui disent qu'ils ne peuvent pas passer de l'un à l'autre, comme ma mère, mais en fait, elle a lu des bandes dessinées assez pointues, comme Tsuge, et c'est elle qui a choisi, et puis en fait, c'est passé, enfin, elle a lu, elle a décrypté les dessins, enfin, elle a vraiment lu le dessin, et donc pour en revenir à la technique, c'est vraiment pratique, c'est... Et puis le noir et blanc aussi, je trouve que c'est infini, enfin c'est très riche. Donc, et moi, même dans Hanbok, j'aurais pu aussi décliner. Pour moi, c'est pas un outil qui me limite, au contraire. Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Et pour ce projet-là, j'aimerais faire des projets avec d'autres techniques, de la couleur, mais finalement, je reviens toujours à ça pour la bande dessinée. Je pense que vraiment, c'est un outil d'écriture parfait pour moi.
On a beaucoup... souligner dans votre bande dessinée les différents traitements graphiques. Je vous entendais dire que c'était quelque chose qui n'avait pas été réellement calculé, que c'était quelque chose de très naturel, c'est-à-dire qu'on a à la fois le récit de ce voyage, on a les reproductions des photos qui sont beaucoup plus détaillées, qui ont davantage de traits, qui sont sur lesquels vous avez passé beaucoup de temps. Il y a aussi les cartes postales qui sont plus jetées encore. Ça a été quelque chose qui s'est fait aussi très instinctivement dans la composition, qui n'était pas intellectualisée au départ en se disant « Ah, il faut qu'il y ait différentes couches entre guillemets de récits, il faut qu'on les distingue bien ». C'est quelque chose de beaucoup plus intuitif que ça.
En fait, ça s'est fait naturellement parce que les cartes postales, c'est des formats de cartes postales et on a gardé le même format réel, donc des pages et des cartes postales. Et donc forcément, il y avait plus de petites cases et c'était deux strips, donc ça fait des pages dans le livre de quatre strips. Et le récit, c'était trois. Et ça, c'était dès le départ, j'avais fait un choix, donc... Là, c'est un parti pris. Sauf à la fin du récit, il y a plus de strips, il y a plus de petites cases aussi. Mais sur la technique, justement, ce que je disais sur la plume et l'encre, par exemple, pour le portrait du père biologique et de la mère aussi, j'ai beaucoup gratté, je suis beaucoup repassée dessus parce que je voulais vraiment que ça ressemble à la photo que j'avais. Et je corrigeais en fait avec un crayon blanc. Et à force de gratter, ça faisait du gris. Et finalement, on l'a gardé comme ça. J'allais pas le refaire pour avoir une unité de dessin parce que ça n'a pas trop de sens finalement. Et en fait, n'importe qui peut passer de l'un à l'autre. Enfin, il me semble que c'est quelque chose qu'on ressent et c'est ça qui est plutôt intéressant, je pense. c'est pas par des mots. Et ça, ça compte aussi tout ce processus en fait de recherche, enfin de dessin, de recherche graphique finalement.
Ça participe aussi de ce que vous disiez du lien entre l'écriture et le dessin, oui. Du même outil, et de dire que le dessin est une écriture, et finalement le fait de passer plus de temps dessus dit aussi quelque chose.
Voilà,
ouais. Ça participe complètement de la narration, d'avoir aussi l'idée du geste derrière.
Oui, bien sûr, ouais. Et c'est quelque chose peut-être aussi que on accepte plus maintenant les différents traitements graphiques. Ça, je pense que, ouais, il y a, je sais pas, 20 ans, 30 ans, c'était pas évident pour les éditeurs, peut-être. Après, ça reste, mon éditeur reste un très ouvert. Enfin bon,
parce
voilà,
qu'on n'a pas évoqué la rencontre. On évoquait au tout début de la rencontre les débuts, les premières publications. Mais on n'a pas raconté comment est-ce que vous aviez rencontré votre éditeur, oui. Qui est donc Jean-Christophe Menu, qui est l'éditeur de Marjane Satrapi que vous citiez tout à l'heure. Et lui, c'est lui qui a vu, je crois, vos travaux sur Internet, c'est
oui.
Ça, alors qu'il relançait justement l'Apocalypse, qui est sa maison d'édition qu'il a fondée il y a peu de temps. Jean-Christophe Menu, qui était l'un oui. Des fondateurs de l'association.
Alors, l'Apocalypse, il l'avait créé en... alors, je ne veux pas me dire de bêtises.
Je ne l'ai pas dit parce que je m'en souvenais
c'est
plus.
C'est 2010.
Il y a eu une première fois où il y a eu quelques albums. Et puis, effectivement, c'était entré en sommeil. Et,
Je crois que c'est vers 2010, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là, c'était donc il y a pas mal de temps. Et il avait arrêté et cherchait à reprendre. Et nous, on se connaissait, on s'est toujours croisés forcément dans le petit monde de la BD. Alors, l'histoire, je vais essayer de ne pas prendre trop de temps là-dessus, parce que donc, j'avais ce projet sous le coude depuis longtemps. Et donc, Yoon-sun, une amie coréenne autrice, Yoon-sun Park, donc je l'avais revue un été, donc en 2022 ou 2021. Et donc je lui avais parlé des bulles qui étaient restées vides et qui devaient être écrites en coréen. Et donc elle m'a aidée. Enfin, je lui avais demandé. Enfin, voilà, c'était assez évident que c'était elle qui devait le faire parce qu'on se connaît depuis longtemps et tout. Et donc en fait, elle est rentrée chez elle à Angoulême et moi, je lui avais parlé de ça et qu'elle avait accepté. Donc j'ai dû ressortir mes pages et puis refaire. Donc j'ai fait une première traduction et que j'ai envoyé tout de suite. Elle a corrigé. Et en fait, vu que j'avais sa traduction, j'ai dû ressortir les pages et puis réécrire. Et j'ai repris comme ça. Et puis donc j'ai mis ça sur Facebook. Et là j'ai eu des retours. Et en fait, ça a fait ressortir le bouquin. Et donc Jean-Christophe Menu les a vus. Et en fait, voilà, donc les réseaux sociaux, ça compte hein, maintenant. Et donc après, on s'est rencontrés. Et puis très vite, en fait, tout collait très bien. Parce que, mais je pense qu'il y a une anecdote qui est assez drôle. Parce que donc, j'avais commencé en 2005, donc 17, 18 ans avant. Et lui, quand on s'est rencontrés donc, autour de mon projet... Il a lu tout d'un coup avec son œil d'expert et tout. Et puis il m'a dit, il m'a expliqué qu'il voulait reprendre la maison d'édition. Et puis il m'a dit tout de suite, moi je veux un livre là dans 3 mois. Et en fait, 3 mois après 18 ans, je pense que ça m'a fait un électrochoc. Et finalement, c'était une bonne manière de me remettre dedans sans trop réfléchir. Et c'est vrai que ça tombait super bien. Et c'est vrai que vu que c'est un auteur aussi, ça compte. Le fait que ça soit un éditeur, un très bon éditeur, mais un auteur aussi au départ, c'est vraiment quelqu'un que je respecte dans son travail d'auteur aussi. Et donc j'avais vraiment confiance. Et tout ce qu'il a pu apporter quand on a travaillé ensemble... par exemple, le fond noir, ou même la couverture, c'est le graphisme, il a vraiment... ça correspondait. Alors peut-être aussi le fait que je lui faisais confiance comme ça, je lui ai vraiment... Je sais pas, des fois ça colle. ça, il a, en tout cas, je pense qu'il avait bien saisi l'enjeu et puis il voulait, il y avait une volonté aussi de sa part de faire le mieux, que ça corresponde le plus à ce qu'il me fallait, parce que pour un livre comme ça qui est très personnel et puis très ancien, donc on dit en rigolant que c'était les planètes étaient alignées, mais c'est vrai que des fois ça arrive et c'est plutôt
c'est
chouette.
C'est le bon moment,
ouais.
Et c'est ouais. La bonne personne.
Ouais ouais vraiment.
Et c'est on le dit depuis tout à l'heure, un récit très personnel. Vous avez évoqué quelques récits autobiographiques que vous avez découverts notamment aux Beaux-Arts d'Angoulême. Est-ce qu'il y a d'autres œuvres qui vous ont accompagné dans la réalisation de ce livre ? Il y a, je crois, un clin d'œil à Bong Joon-ho, notamment, que vous citez également dans l'article que vous pouvez trouver sur Balise. Quelles sont les œuvres qui vous ont accompagné ? J'aime pas forcément dire influencé, parce que c'est plus un compagnonnage généralement qu'une influence directe. Mais voilà, vous pouvez parler même de Bong Joon-ho si vous voulez.
Ouais, alors Bong Joon-ho, il y a donc la fameuse rigole, parce que j'en avais besoin en fait, c'est pour mettre en scène le souvenir de ma sœur. Donc vu que j'avais pas d'image, j'ai puisé un peu dans l'imagerie coréenne que je connaissais et vu qu'elle parlait de cette rigole où elle avait fait tomber sa chaussure et que c'était terrible cette histoire, qu'elle s'était faite punir en plus après, j'avais ça comme référence en fait. Quand elle m'a décrit cette histoire-là, j'avais vraiment que ça, j'allais pas faire une rigole de France. Et la Corée, je connaissais pas beaucoup et donc j'ai ça qui s'est pointé. Et donc ça tombait plutôt bien parce qu'en plus, vu que Memories of Murder, c'est un film que vraiment je trouve très bien, là, qui fait partie de mes références dans l'article de Balise. Voilà, j'ai détaillé, j'ai travaillé dessus. Mais c'est super intéressant. Et sinon, comme autre œuvre, je peux pas trop. J'ai pas, en fait, quand je travaillais sur mes pages, je n'ai fait que ça parce que j'avais plus beaucoup de temps, donc c'était un peu la panique.
Et, 3 mois pour tout terminer.
Ouais, 3 mois. Et en fait, sinon, après, tout ce qui m'a influencé, c'est toutes ces 18 années, donc c'est difficile à résumer comme ça. Mais c'est plutôt. Non, j'aurais du mal à. Si, je pense qu'il y a. Mais peut-être je m'avance un peu. Enfin, si, parce que je sais que quand j'ai perdu mon père, j'avais. Il y avait un cycle sur Tarkovsky à Montreuil. Et je sais que ça m'avait vraiment marqué. Ça répondait à quelque chose de très fort. Alors peut-être que ça a joué. Je ne sais pas si on peut faire un lien. Mais ouais, non, j'ai pas.
Et aujourd'hui ? Vous travaillez sur la suite ?
Alors aujourd'hui, j'ai un peu travaillé dessus, mais je préfère pas trop en parler parce que j'ai pas envie que ça fasse comme pour Hanbok. Mais j'ai des idées, ouais, je sais, mais ça se passera pas en Corée, ça c'est sûr. Donc, je veux pas trop. je l'ai déjà dit parce que ça va parler de musique et puis forcément de famille. Et de notre famille en France. Mais ça reste toujours ma vision. C'est très. En fait, c'est très égocentrique, mais j'essaye de faire en sorte que ça soit ouvert. Donc, c'est peut-être ça la difficulté, de faire quelque chose de.
D'ouvert, d'accueillant. Ouais. De...
Mais ça, on ne peut pas trop prévoir, quoi. Je pense qu'on fait ce qu'on peut. Mais j'essaye de. En fait, les choses ne sont plus jamais pareilles, puisque quand. Avec la super reconnaissance qu'il y a autour de Hanbok, il faut être présent pour les rencontres et les choses comme ça, c'est vraiment génial. Mais c'est vrai que je ne vais pas être isolée comme j'étais avant, et donc il va falloir faire avec et toujours composer avec. Donc,
oui, c'est vous. Et effectivement, ça va être bientôt l'heure de l'atelier. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Sophie avant qu'on passe de l'autre côté? Pas de questions? Non? Merci beaucoup, merci infiniment Sophie, merci à vous toutes et tous.
Merci.
Ah, vous aviez une question finalement ?
Oui. Ah si, allez-y.
Comment est-ce que vos sœurs aînées ont réagi en lisant le livre et par rapport à ce travail d'une manière plus générale ?
Ben, en fait, j'ai pas vraiment d'anecdote là-dessus parce que ça, c'était émouvant pour tout le monde puisque c'est leur histoire. Et en plus, donc elles m'ont confié quand même leurs souvenirs qui sont douloureux. Enfin, c'est pas rose, c'était pas rose en Corée. Et donc elles étaient très émues. Donc tout le monde a pleuré, tout ça. Mais alors c'est quelque chose que je dis pas trop en général, mais c'est vrai que Virginie qui est la plus concernée finalement. Mais après c'est son tempérament. Elle est pas très expansive, donc elle était moins expansive, mais en tout cas, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'elle me disait, elle m'avait dit qu'elle s'était retrouvée en fait. Et elle avait plus trop de souvenirs du voyage, parce que moi, le fait de travailler dessus, bah forcément, j'ai plein de détails dont elle se souvenait pas elle. Et par contre, sur la représentation, j'étais rassurée parce qu'elle m'a dit que ça se retrouvait, parce que c'est vrai que j'ai dessiné dans toutes les manières possibles. C'est pas évident, quoi. Donc, je pense que, ouais, non, ça va, c'est très positif. Hein, et puis, c'est quand même un hommage à son histoire, à sa recherche, parce que c'est quand même elle qui est à l'origine des retrouvailles avec la Corée et notre famille biologique. Et ma mère, donc mon père n'est plus là, mais mon père savait aussi, il avait déjà vu des pages. Mais ma mère, elle est vraiment heureuse, parce que c'est vrai que c'est... C'est l'histoire de sa vie, enfin, c'est l'histoire avec mon père, c'était leur projet de famille. Donc eux, ils ont toujours voulu avoir une famille nombreuse. Donc ça vraiment, ça les a... Oh, oui, c'est vraiment important, ça les a vraiment touchés et émus. Donc voilà. Ah oui, il y a un mot que je n'ai pas entendu, mais sinon, ouais, j'ai des souvenirs.
Oui, c'est de se dire que finalement, que même quand on n'a pas cette histoire, la même histoire que la vôtre, on a ces images de l'enfance qui s'effacent, ces souvenirs qui ne sont pas présents, mais parfois, s'ils sont réveillés par des odeurs et qu'ils demandaient ouais. Si ça vous était arrivé aussi, de par les odeurs, que ça renvoie pas forcément à des souvenirs précis, mais à de se dire que ça provoquait quelque chose lié à l'enfance.
J'ai retrouvé un goût. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, c'était une boisson. Et en fait, c'était logique parce que c'est une boisson assez douce. Mais sinon, après, c'est toujours difficile de savoir si c'est un souvenir. Enfin, c'est toujours pareil. Mais là, le goût. Mais les odeurs, ça m'a pas marqué plus que ça. Mais sûrement, parce que goût, odeur. C'est pas loin, enfin, mais après c'est peut-être pas très conscient, hein, tout ça, c'est quelque chose qui est difficile à détecter en fait quand on se retrouve. Puis il y avait plein de choses, il y avait, alors peut-être ça va me revenir là, enfin je pense pas, mais des odeurs, ouais, je saurais pas vous dire pour les odeurs. Ouais. Merci.
Est-ce qu'il y a une autre question maintenant que la première a été posée? Non. Ben, merci à vous, merci beaucoup Sophie.
Merci Sonia.
Et restez avec nous pour celles et ceux qui se sont inscrits à l'atelier. Merci.